Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et bienvenue dans le goût d'entreprendre. Voilà une adresse qui va vous faire saliver. Gourmande et Compagnie est une entreprise qui fabrique des gâteaux, biscuits apéritifs et autres douceurs sous la marque Le Collectif des Gourmandes. Elle est installée à Castanet-Tolosan, près de Toulouse, et nous recevons sa fondatrice, Laurence Roland.
Bonjour à tous.
Bonjour Laurence.
Bonjour.
C'est l'histoire d'une petite biscuiterie devenue grande. Des biscuits qui sont aujourd'hui référencés dans de grandes enseignes nationales. Mais c'est aussi l'histoire d'une entreprise qui vient de faire le choix de passer en SCOP. Vous avez fondé l'entreprise Laurence en 2010.
Oui, tout à fait, en 2010.
Alors comment vous est venue l'idée ?
Je travaillais pour une grande société leader diététique et j'étais plutôt...
En Occitanie, on peut les citer ?
Oui, oui, Nutrition et Santé, Arvel.
Ouais, très connu,
voilà.
Ouais.
Donc, je travaillais au sein de cette société dans un service qui était plutôt destiné à développer des produits de perte de poids.
Ouais.
Donc, en fait, j'élaborais des substituts de repas, des encas hypocaloriques hyperprotéinés à destination des femmes essentiellement qui souhaitaient... se mettre au régime. Et ça faisait 7 ans que je faisais ça. Et au bout de 7 ans, j'ai eu une réflexion personnelle qui m'a poussée à complètement changer de braquet et en fait qui a consisté à me dire qu'il y avait autre chose finalement que cette problématique de perte de poids, qu'il y avait beaucoup de femmes qui souhaitaient plutôt consommer des produits gourmands. À l'antithèse de tout ce que je proposais, je me suis dit il y a vraiment quelque chose à faire, parce qu'en fait elle piochait dans les goûters des enfants.
Ouais,
petite
ouais.
gourmande, et elle ne trouvait pas forcément des produits adaptés sur les rayons des grandes surfaces, donc voilà, l'idée est partie de là.
Et votre formation en fait
Alors j'ai une formation à la base marketing, j'ai un DESS en marketing, mais j'étais en charge du développement de produits, donc je travaillais avec des ingénieurs agro, R&D, des ingénieurs qualité, service production, donc j'avais toute une équipe qui était dévouée au développement de produits,
voilà.
J'étais pas toute seule. Voilà.
Et à la minceur. Donc à un moment vous êtes dit stop, il faut se faire plaisir aussi, c'est important. Et vous avez commencé à faire des petits gâteaux dans votre cuisine.
Alors oui, d'abord j'ai étudié le marché, parce que je suis partie, j'ai quitté la société. J'ai étudié le marché pour savoir si mon idée était pertinente. Il a semblé que oui, d'après les premiers retours que j'avais. J'ai rencontré quelques clients potentiels et à partir du moment où j'étais à peu près certaine qu'il y avait vraiment un potentiel, j'ai commencé à élaborer les premières recettes. J'ai travaillé très rapidement avec Agrotech, qui est une plateforme technique sur AGEM, pour m'encadrer vraiment sur toute la partie réglementaire et la partie formulation.
Ouais.
Donc, j'ai travaillé avec un ingénieur agro R&D, un technicien qualité, et on a élaboré les premiers biscuits qui sont rapidement partis en test consommateur et qui ont donné des résultats très moyens. Tant et si bien qu'il a fallu revoir pas mal de choses avant d'arriver aux recettes finales qui sont arrivées sur le marché, on va dire, en courant 2011.
D'accord, juste un an en fait pour lancer le produit. Vous parlez de résultats moyens, ça ne vous a pas découragé, au contraire ?
Non, c'était logique et puis j'étais habituée aux tests conso qui sont des fois un petit peu radicaux. Donc je savais qu'en les faisant déguster en comparatif à d'autres marques, voilà, ça allait être un peu abrupt, mais au moins je pourrais en tirer des enseignements. Donc grosso modo, pour vous donner une petite anecdote, j'avais un biscuit qui était élaboré à partir de chocolat et avec un soupçon de fève de tonka. Et les consommateurs, quand ils goûtaient ce biscuit, ne reconnaissaient pas la fève de tonka, ne savaient pas ce que c'était, trouvaient que c'était trop fort en goût. Donc il a fallu que j'allège un petit peu toutes mes teneurs en épices. Voilà.
Donc vous faites des biscuits qui sont gourmands, mais qui sont peu caloriques ou...
Alors pas du tout, au contraire, on a pris un peu le contre-pied de tout ça. C'est-à-dire que l'idée, c'était de dire « faites-vous plaisir ». Carpe diem,
ouais.
C'est le cas de le dire. Mais parce qu'on vous fait confiance, on sait que vous êtes raisonnable, vous êtes adulte, et que vous, quand vous consommez un paquet comme ça, vous faites attention à côté, ou c'est pas tous les jours.
Et en fait, quoi que.
Ou pas, mais on vous laisse libre de vos choix. Nous, ce qu'on veut en tout cas, c'est vous proposer avant tout des produits qui soient avec des matières premières absolument impeccables, pas d'ingrédients suspects. Donc on a de suite banni, par exemple, l'huile de palme. On essaie de s'approvisionner auprès d'artisans qui sont à proximité de chez nous. Et déjà, à l'époque, on avait intégré dans pas mal de recettes des ingrédients qui étaient bio. Mais comme on n'était pas... tout bio, on ne pouvait pas mentionner que l'ingrédient était bio. Mais par exemple, nos graines étaient bio, nos fruits étaient bio. Mais l'idée, c'était vraiment ça, proposer des produits super gourmands avec du bon beurre, donc calorique, mais à partir de matières premières impeccables.
Et de bons produits, voilà, de bonne qualité. Qu'est-ce qui vous a, qui vous a aidé? Comment vous avez été accompagné pour lancer votre activité? Vous étiez au départ dans une pépinière d'entreprise.
Oui, j'étais dans une pépinière d'entreprise à Agen. Très rapidement, j'ai transféré l'activité en région toulousaine. Donc là, j'ai cherché à m'entourer et en tout cas à pouvoir avoir des conseils de la part d'entrepreneurs. Donc, je suis allée solliciter le réseau Entreprendre très tôt, en fait, et j'ai effectué ce qu'ils appellent le parcours du lauréat, qui consiste à faire une demande d'accompagnement. Donc, en fait, vous présentez votre projet auprès de chefs d'entreprise, vous passez aussi en commission, et si c'est positif, la commission vous accorde un prêt sur l'honneur. Donc, il y a une partie, un volet financier qui est très intéressant, qui fait en général effet de levier auprès des banques. Donc, ça, c'est bien aussi.
Oui, voilà, pour vous accompagner.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si, par exemple, vous obtenez 20 000 euros de prêt sur l'honneur, en général, les banques abondent dans le même, à peu près au même niveau. Donc, c'est
un réseau, effectivement, qui est très, très puissant et qui est vraiment présent auprès des entrepreneurs.
Oui, et là, le deuxième volet de ce qu'ils proposent, c'est un volet d'accompagnement. Donc, ça, c'est extrêmement important. Je dirais que c'est même primordial. C'est sans doute la partie la plus intéressante, puisque pendant 3 ans, vous allez être accompagné par un chef d'entreprise qui va vous recevoir tous les mois, avec lequel vous allez échanger sur toutes vos problématiques. Alors, son rôle, c'est pas de vous apporter des solutions. Son rôle, c'est de vous aider à trouver vous-même les solutions. Et c'est ce qui est vraiment très intéressant.
C'est ça, voilà, on vous aide, on vous tient la main.
C'est ça.
Mais on vous accompagne, c'est bien ça. Ouais. Le réseau Entreprendre, on vous invite effectivement, si vous êtes dans cette situation, à vouloir créer votre entreprise ou envisager de la créer, de ne pas hésiter, bien sûr, à les contacter. Alors, quels sont, Laurence, les salariés qui travaillent avec vous aujourd'hui? Quel profil? Vous êtes une petite équipe, vous êtes une biscuiterie, certes. Le mot biscuiterie est un peu désuet, très joli d'ailleurs, mais artisanal. Et vous êtes combien aujourd'hui? Dans l'entreprise?
Alors, on est 9 personnes dans l'entreprise. Ouais. Il y a une équipe de 5 personnes en production. Donc, c'est une équipe qui travaille très tôt le matin, de 7h jusqu'à 17h. On a une équipe du matin, une équipe de l'après-midi, composée d'une responsable de production qui a une formation d'ingénieur agroalimentaire, qui s'occupe de toute la partie qualité, process, approvisionnement, achat matières premières et organisation du travail. Ensuite, on a un chef pâtissier qui, lui, est vraiment dans l'opérationnel pur, puisqu'il prend en charge vraiment tout le travail qui est réalisé le matin, c'est-à-dire les pesées, la mise en œuvre des recettes, jusqu'à la partie cuisson. Et ensuite, on a des personnes qui sont de profil plutôt qualité. Donc, on a 2 personnes l'après-midi qui s'occupent de la partie ensachage.
Qui goûtent les gâteaux.
Alors, les gâteaux sont évidemment goûtés quasiment systématiquement, mais ils sont surtout contrôlés aussi après la cuisson et contrôlés aussi après qu'on les ait mis en sachet. Il faut qu'on s'assure qu'on ait le bon poids, qu'il n'y ait pas eu de problème particulier sur les sachets. Donc là, on a vraiment besoin d'un contrôle qualité à la fin de la journée de production sur les produits avant que les lots soient libérés.
Vous arrivez facilement à trouver des profils qui correspondent?
On a eu beaucoup de chance, en fait. On a réussi à recruter une bonne équipe. On a des gens qui ont tous plus ou moins une expérience en agroalimentaire. On n'a pas forcément des gens qualifiés à tous les postes, puisque sur l'équipe de 5 personnes, il va y avoir une cadre, un pâtissier. Mais après, il s'agit de postes d'opérateurs, donc c'est des postes, on va dire, de un peu plus basiques, entre guillemets. Ouais. Mais je pense que la société devait présenter une certaine attractivité parce qu'on a des... Alors, on a recruté facilement des gens, puis surtout des gens qui sont restés.
Des gens qui restent, voilà, c'est important.
Ça, c'est super important. Donc, ça, c'est sur la partie production. Et ensuite, on a toute une partie, évidemment, administration des ventes, comptabilité, commerciale. Donc là, on a une assistante qui s'occupe de l'administration des ventes, de la comptabilité... et de l'administration générale. Mon mari, qui s'occupe de la partie commerciale, donc qui démarche les magasins, qui a un soutien puisqu'il est accompagné par un merchandiseur, et puis moi-même.
D'accord. Et vous êtes en SCOP désormais?
Et on est depuis le 3 mai. Oui, voilà, c'est le scoop. C'est le scoop de la SCOP.
Pourquoi ce choix?
Alors, Il y a la raison principale, en fait, c'est que la société, je détenais une grande partie de la société, mais je n'étais pas la seule. J'avais des actionnaires qui étaient avec moi, qui des fonds qui nous ont aidés à lancer l'activité, qui était donc au capital de la société. Et nous étions face à un gros développement très rapide. Donc il faut savoir que les sociétés, quand elles rencontrent un gros développement très rapide, rencontrent souvent des difficultés de trésorerie et ont souvent des besoins qui peuvent intervenir. Donc on a sollicité nos actionnaires sur un tour de table. Ils ont refusé ce tour de table supplémentaire et ils ont plutôt décidé d'orienter la stratégie vers un rachat potentiel. Donc j'ai rencontré des repreneurs potentiels de l'activité qui sont venus visiter l'entreprise et je me suis rendu compte au cours de ces visites et de ces rencontres que l'objectif pour ces repreneurs potentiels c'était plutôt de récupérer les marques et les contrats, mais de fermer l'unité de fabrication, délocaliser dans d'autres régions.
Ça dû être terrible pour vous.
C'était absolument impossible, l'inverse de ce que je voulais faire. Le projet initial c'était de bâtir une unité de fabrication avec des gens, que ce soit pérenne, la développer à notre niveau, mais voilà. Donc là, c'était absolument pas envisageable. Et du coup, j'ai essayé de trouver des alternatives. Et en discutant, partageant ça avec des amis, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un schéma d'entreprise qui peut-être pourrait permettre de rabattre un peu les cartes. Et en fait, on a proposé à nos actionnaires de nous revendre, de nous céder leur part de la société. Alors quand je dis nous, il s'agit de mes salariés et de mon mari, moi.
Oui, voilà. Puisque vous êtes en scope.
Exactement. Donc en fait, nous avons été 7 à nous mobiliser pour racheter ces parts-là. Ouais. Donc, du coup, derrière ça, monter la scope et aller chercher d'autres financements qui sont spécifiques à l'économie sociale et solidaire et au scope.
Voilà, donc tout le monde s'implique, voilà. Encore plus, et vous développez l'entreprise.
Exactement.
On se retrouve tout de suite. Merci Laurence.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Et seconde partie de cette émission avec Laurence Roland de l'entreprise Gourmande et Compagnie, entreprise de biscuits installée à Castanet-Tolosan, près de Toulouse. Bonjour Denis Avril.
Bonjour.
Référent éthique pour l'émission Le goût d'entreprendre. Et première question à Laurence, Denis.
Oui, donc on vient de nous parler de votre transformation en scope. Bon, ça a été, d'après ce que j'ai compris, suite à une aventure financière. Mais maintenant, c'est devenu une aventure humaine, alors. Parce que quand on a des collaborateurs, j'allais dire des salariés, mais ça devient des collaborateurs, qui sont aussi actionnaires, on veut dire coopérateurs, en fait, de l'entreprise, ça change quand même tout dans une entreprise.
Alors, sur l'aspect financier, ça a été le déclencheur, l'aspect financier, mais la volonté de se transformer en scope, ça a vraiment été une aventure humaine, parce qu'il aurait été 10 fois plus simple pour moi de me dire, on revend, et puis voilà, et puis c'est terminé. Psychologiquement, je pouvais tout à fait accepter la chose. Émotivement et dans mon cœur, non, quoi. C'était pas possible. Donc, c'était vraiment parce que j'étais très attachée aux collaborateurs de l'entreprise et à ce qu'on avait construit. Donc, c'était vraiment aussi une aventure humaine, même s'il y avait cet aspect financier. Et après, par rapport au changement sur le mode de fonctionnement de l'entreprise, pas vraiment, dans la mesure où, en fait, en termes de fonctionnement opérationnel, on a gardé exactement la même structure, c'est-à-dire que je reste la gérante, je prends les décisions, j'ai mandat pour prendre les décisions que je juge importantes opérationnelles, qui ne sont pas des décisions, de niveau assemblée générale ordinaire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire le déménagement de la société, l'acquisition la mise en œuvre d'investissement, l'acquisition de machines, la transformation de la société, voilà. Tout le reste, aujourd'hui, j'ai mandat de mes collaborateurs pour prendre les bonnes décisions. Maintenant, l'idée à terme, c'est vraiment d'arriver à les impliquer complètement dans les décisions qui sont prises dans la société. Parce que, d'une part, s'ils participent à ces prises de décision, ils seront encore plus impliqués et ils comprendront mieux des fois les enjeux. Et puis, deuxièmement, parce que je leur dois bien ça. C'est tout. Je ne vais pas rester gérante à décider de tout toute seule. C'est pas ça l'idée. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment de partager avec eux. Ça va être. On va réaliser ça petit à petit. Pour le moment, on n'y est pas encore.
Denis, une autre question.
Oui, mais alors, si vous avez pu donc les impliquer dans cette aventure avec vous, si vous aviez déjà créé un certain état d'esprit, j'allais dire, vous aviez des valeurs que vous partagiez avec
des
vos
liens,
salariés.
Ouais.
Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces valeurs-là? Et puis, j'étendrai aussi aux fournisseurs, peut-être.
Oui. En fait, l'idée, c'était de... L'idée... Je ne sais pas si je l'ai fait de façon consciente, mais je me suis toujours dit que sur une aventure comme ça, sur une société artisanale, en fait, on demande beaucoup à ses collaborateurs. Parce que c'est, déjà, c'est une entreprise qui est jeune, on démarre une activité qui n'est pas simple, qui est fortement concurrentielle. Donc, ça sous-entend que vraiment, on puisse s'adapter au rythme de l'activité qui n'est jamais très régulier. Et du coup, je me suis toujours dit que ce qui comptait, c'était la valeur de l'exemplarité. Donc, il fallait être au cœur du travail avec eux et puis pas être au-dessus de la pyramide à être très directif. Donc j'ai toujours eu un système d'encadrement assez participatif où j'étais vraiment au sein des équipes. J'étais tout le temps avec eux en cas de difficulté aussi, quand ça allait bien aussi. Donc ça, je pense que ça a été important pour construire une relation de confiance parce que peut-être qu'ils se sont dit bah, finalement elle est avec nous, elle comprend bien ce dont elle parle.
C'est plus le patron entre guillemets, c'est ça.
Ça peut pas être
ça. Cette image-là.
Ça peut pas être ça, ou alors il faut être extrêmement directif, il faut être un despote. Mais moi, ça n'a jamais c'était ma conception de l'encadrement. Mmh. Donc déjà, c'était ça. L'idée, c'était d'entraîner une équipe et de leur dire on est tous sur le même bateau, on va y arriver ensemble. Voilà. Et si jamais ça ne se passe pas comme on avait prévu, ce n'est pas grave, on va trouver aussi les solutions ensemble. C'était ça. On a toujours fonctionné comme ça. Et je vous avouerai que j'ai été surprise du nombre de solutions qui sont amenées par les personnes qui sont au quotidien confrontées aux problématiques.
Parce que vous avez su leur donner confiance aussi.
Oui, puis parce que je pense que j'ai essayé de les écouter, même si des fois, c'est pas simple parce que quand on a des préoccupations et qu'il y a des enjeux financiers qu'ils ne perçoivent pas, ben forcément des fois on confronte des points de vue qui vont pas forcément dans le bon sens. Mais je pense que effectivement en partageant en pouvant partager tout ça et en s'appuyant sur les compétences de chacun, on arrive vraiment à trouver des solutions. Et c'est le principe de plusieurs cerveaux au lieu d'un seul cerveau, quoi. C'est ça, en fait, c'est l'intelligence collective, hein.
Tout à fait. Vous êtes très bien référencés, vos biscuits sont très bien référencés, même dans les grandes surfaces. Comment vous faites justement pour vous imposer en grande distrie?
Alors imposer, c'est un bien grand mot. Non, on a fait quelques petits coups d'éclat et c'est un petit conseil que je peux donner peut-être aux jeunes ou aux créateurs d'entreprises qui se lancent en grande distribution. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir un petit peu d'assurance et d'aplomb. Nous, on a adhéré à une association qui s'appelle la FEF, qui nous permet de participer à des salons au niveau national au cours desquels on rencontre les acheteurs des grandes enseignes. Donc, il va y avoir un salon Auchan, un salon Carrefour, un salon Monoprix. Et à l'occasion de ces salons, on peut présenter des produits pour le concours de l'innovation. Et on a gagné 2 années de suite des concours de l'innovation avec Carrefour et Auchan. Et ces concours nous ont ouvert les portes des grandes surfaces au niveau national.
Ouais, c'est parce que vous aviez déjà un bon produit aussi au départ, à la base.
Ou alors parce qu'ils ont trouvé que ils ont dû trouver que le produit apportait quelque chose par rapport à l'existant, je ne sais pas. Mais voilà. Et c'est vrai que ça a été le démarrage, vraiment le point d'or.
Ça vous a boosté, ça.
Ah oui, complètement. Ouais.
Denis, une autre question.
Oui, j'abordais tout à l'heure les fournisseurs. Est-ce qu'avec les fournisseurs, vous avez une relation particulière? Est-ce qu'ils partagent vos objectifs, vos valeurs? Comment vont ces relations? J'ai compris qu'ils étaient des locaux quand même. Donc.
Alors oui, puis là, c'est en train de s'accélérer très fortement parce qu'on est complètement impliqué maintenant dans le commerce équitable, puisqu'on a pour objectif de transformer à horizon 2020 90% de notre fabrication en bio équitable. Donc équitable, c'est pas uniquement le commerce équitable nord-sud, c'est aussi le commerce équitable nord-nord. Donc par exemple, là, on va créer des produits pour la société Éthicable sous la marque Paysan d'ici. Mmh. Et pour ces produits-là, plus de 50% des matières premières sont issues de production locale, avec des accords pérennes conclus sur plusieurs années, où on garantit un prix aux fournisseurs. Notamment, pour vous donner un exemple concret, on va travailler avec une petite coopérative laitière bio qui s'appelle Biogamme, qui fait du beurre, qui est situé dans le nord-est de la France. Et donc, on a conclu un accord de prix avec eux, des quantités. On s'est engagé là-dessus pour avoir un rapport commercial qui soit intéressant pour eux et les aider aussi à se développer.
Parfait. Ça, c'est plutôt aussi très, très, très encourageant et prometteur.
Oui,
pour
tout
les,
à fait.
Pour les années qui viennent.
C'est important, puis c'est un petit peu notre conception.
Puis vos valeurs
de la,
aussi.
Oui, ça, ouais. Ça cadre avec nos valeurs et notre conception du commerce.
Alors, on voudrait être un petit peu gourmand et curieux. Est-ce qu'il y a une tendance dans le biscuit? Est-ce qu'il y a une mode? Alors, les biscuits 100% bio, on en parlait. Les biscuits vegan, les biscuits je ne sais quoi. Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? Quelle est la demande?
Alors, il faut savoir que aujourd'hui, on parle beaucoup de la bio. Nous, on y croit énormément. Mais les biscuits bio, c'est à peine 4% du marché des biscuits.
4%, voilà. Ouais.
Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire encore.
Ouais, effectivement.
Ah oui, il va falloir qu'on aille convertir pas mal de gourmands. Pourquoi il faut aller les convertir, ces gourmands-là? Il faut aller leur expliquer qu'aujourd'hui, ce qu'ils consomment, c'est souvent plein d'additifs, de matières premières qui ne sont pas forcément naturelles et qu'ils ont tout intérêt à basculer, s'ils le peuvent, évidemment financièrement, vers des produits qui soient plus respectueux de l'environnement et qui leur permettront aussi de mieux respecter leur santé.
Ouais,
voilà.
Ouais, ouais.
Donc la grosse tendance, évidemment, c'est la bio. On en entend beaucoup parler, mais pas que. Au sein de la bio, il y a des micro-tendances. Donc là, le vegan est très tendance aussi.
Qu'est-ce que c'est un biscuit vegan?
Un biscuit vegan, c'est un biscuit qui n'utilise pas de matières premières issues des animaux. Pas de matière première animale. Donc, en fait, on va s'affranchir du lait, des œufs, du beurre.
Du beurre, oui.
Évidemment,
ouais,
forcément. Ouais, ouais. Mais aussi de matière première qui pourrait nuire au bien-être animal. Donc, je vous donner un exemple. Si vous utilisez de la noix de coco dans un biscuit qui se veut vegan, il faut que vous vérifiez que les noix de coco ne soient pas arrachées des arbres par les singes.
D'accord.
C'est ça.
Ok.
Voilà.
Eh oui. Et vous allez sur place le vérifier? Non, je plaisante.
Il faudrait.
D'accord, oui, donc pardon, je vous ai coupé. Alors, les biscuits vegan.
Donc là, les biscuits vegan, c'est une... Les protéines végétales sont une vraie tendance. Dans le biscuit, ça n'a pas trop lieu d'être. Mais par contre, le biscuit vegan est aussi une vraie tendance de fond. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le consommateur cherche un produit qui respecte l'environnement, mais pas que, qui respecte aussi la faune, la biodiversité, les animaux.
Les animaux, oui, ouais, tout à fait. Denis, une autre question.
Ben justement, ces clients, comment vous avez le contact avec eux? Comment vous les écoutez? Comment vous les recevez quand ils essayent de prendre contact?
Ah, ça, c'est une très bonne question. Alors, il se trouve que j'ai une cousine qui est végane, donc j'ai beaucoup de chance.
Alors,
cette cousine, pendant des années, m'a reproché de ne pas pouvoir consommer mes produits. Elle m'a dit, mais ils sont très sympas, j'ai envie. Mais elle me dit, mais tu sais, moi, je suis végane, donc ce n'est pas possible. Donc, c'était un petit peu l'original de la famille, je dirais, parce que ça fait plus de 20 ans qu'elle est végane. Et puis, je me suis dit, tiens, il faut quand même que je lui demande ce qu'elle en pense, comment elle voit les choses. Et donc, je lui ai posé la question. Elle m'a parlé d'un magasin vegan qui s'appelle le Cri de la Carotte, hein, que vous connaissez peut-être sur Toulouse. Voilà. Et elle m'a dit, si tu as besoin de faire goûter les produits, tu peux tout à fait contacter ce point de vente, organiser des dégustations pour prendre des retours. Donc, en fait, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie par les réseaux sociaux de contacter des personnes qui sont concernées par ce type de mode d'alimentation. On leur demande de nous contacter, pas de venir sur l'atelier, mais au moins de nous envoyer leurs coordonnées. Et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des échantillons, on fait goûter, on essaie de prendre leur avis. L'idée, c'est vraiment de mettre le consommateur au cœur du développement de produit. Ça, c'est très important pour nous.
Ouais.
Avec toujours la préoccupation de faire un biscuit gourmand, parce que le problème qu'on a sur ces produits vegan, c'est qu'on va avoir un biscuit qui pourrait être facilement vegan, mais par contre, pour qu'il plaise à toute la famille, ça, c'est moins évident.
Oui, voilà, c'est un vrai challenge, ça.
Ça, c'est un vrai challenge, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera justement à étendre ces modes d'alimentation et à faire qu'ils deviennent un peu grand public.
C'est ça, voilà, tout à fait. Denis, une dernière question.
Oui, donc là-dessus, est-ce que pour vous, le vegan, c'est effectivement votre objectif et de passer 100%, ou est-ce que vous allez avoir plusieurs gammes de manière à toucher tous les clients quand même?
Non, l'objectif vraiment, c'est d'être 100% bio. Et équitable, ça c'est l'idée, c'est absolument fondamental. Après, au sein du portefeuille produit, on va avoir une partie qui va être végane, évidemment. On a aussi une partie sans gluten, par exemple.
Oui, voilà, sûr, ça c'est un marché important aussi.
Mais alors, on a eu énormément de demandes de la part de consommateurs, en fait, parce qu'on faisait des petits macarons qui naturellement étaient sans gluten et qui nous ont demandé, mais est-ce que vous pouvez nous garantir vraiment qu'ils soient, est-ce que vous êtes sûre et certaine qu'il n'y a aucune trace de gluten? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec l'AFDIAG qui est venu nous auditer pour garantir vraiment, vous savez, le petit logo avec l'épi de blé barré. Donc ça, pour eux, c'est une garantie, ça prouve bien que nos produits sont contrôlés de façon à ce que on est sûr qu'il n'y a pas de contamination croisée possible, on contrôle les matières premières qui sont vraiment sans gluten.
C'est une vraie garantie.
Voilà.
Oui. Merci Laurence.
Avec plaisir.
On ne peut pas visiter votre biscuiterie.
Alors, on ne peut pas la visiter comme ça, mais on organise des journées portes ouvertes et je vous invite tous à nous contacter sur Facebook, sur la page collective des gourmandes ou alors à l'adresse laurence@collectif-gourmandes.com pour me demander les dates des journées portes ouvertes que l'on organise courant décembre.
Voilà, au mois de décembre, donc
c'est
le
ça.
Rendez-vous est pris. Merci beaucoup, merci Denis. Vous souhaitez nous joindre, c'est très simple, entreprendre@radioprésence.com.
Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.